C'était Monsieur Jean Cluzel, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, pour une communication intitulée « La République et la canonisation de Jeanne d'Arc ». Tout cela, vous le savez, dans le cadre d'une journée spéciale sur Canal Académie, journée consacrée à la loi de 1905 consacrant la séparation des Églises et de l'État, dont on commémore en cette année 2005 le centenaire. La journée spéciale se poursuit avec Hélène Renard et son invité, Anne Fernet et Yves Brûlé, donc ses invités, dans Au fil des pages.
Parlons aujourd'hui, parce que c'est d'actualité pour toute cette année 2005, de la laïcité, et particulièrement de la laïcité à la française, à l'occasion de la publication d'un gros album qui vient de sortir, publié par l'Académie des sciences morales et politiques, et dont les textes sont écrits par Yves Brûlé. Alors cet ouvrage contient à la fois une préface de Monsieur le Premier ministre, une introduction de Monsieur Jean Tullard et de Monsieur André Damien, tous deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques, un texte d'Yves Brûlé, chargé de mission à cette même Académie pour les commémorations du centenaire de 1905. Cet ouvrage, dont l'iconographie a été confiée à Annick Fenet, c'est cela, je ne me trompe pas, je vous
tout
dis
à
bonjour,
fait, oui,
parce que vous êtes là aussi. Bonjour Yves Brûlé.
Bonjour.
Bonjour. Donc je disais que ce bel ouvrage était très illustré et diffusé par la Sofedis. Voilà, je crois avoir tout dit pour le présenter. Maintenant, je vous propose tous les deux que nous entrions en détail dans le sommaire de cet ouvrage. Yves Brûlé, nos académiciens Jean Tullard et André Damien, dans cet ouvrage, ont qualifié l'esprit dans lequel ils le faisaient, c'est-à-dire une commémoration dans un esprit d'ouverture. Ça n'est pas un livre qui va donner un point de vue sectaire et dont le but est d'apporter une connaissance à la fois historique, juridique et sociologique. C'est beaucoup de choses pour un seul livre.
En effet, mais je crois que ce centenaire était l'occasion d'un double travail qui est celui de l'Académie pour ce centenaire officiel. Le premier versant, si vous voulez, c'est le travail de réflexion intellectuelle avec les colloques que nous organisons. Et le deuxième versant, c'est le côté pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser au grand public et rendre accessible cette histoire de la laïcité, cette histoire de la loi de 1905, au plus grand nombre, parce qu'il faut pouvoir profiter de ce centenaire pour faire de la pédagogie historique et pour donc faire comprendre ce que c'est que la laïcité. Et c'est l'objet de ce livre, en fait, hein, donc à la fois d'écrire cette loi de 1905 dans son contexte, mais beaucoup plus largement. Hein, l'idée, c'est de prendre les choses assez loin dans le temps et de les amener jusqu'à aujourd'hui,
ça,
avec des illustrations.
On pouvait difficilement plus remonter dans le temps que vous l'avez fait, parce que nous allons regarder la première partie. Donc cet ouvrage est divisé en trois parties. Et la première partie est consacrée donc aux relations de l'Église et de l'État, ou plus exactement du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, de l'Antiquité à la chrétienté. Donc là, on remonte vraiment très loin. Dans l'Antiquité, si j'ai bien lu cette partie, on a toujours distingué la religion de la politique. Néanmoins, elles étaient très imbriquées les unes dans les autres. Yves Brûlé.
En effet, puisque dans la cité romaine, le souverain ou le chef de la cité est aussi le responsable des liens entre les hommes et les dieux. Par conséquent, c'est par son truchement que passe la paix avec les dieux dont dépend la paix de la cité. Donc on ne peut pas faire plus imbriqué. Hein, la séparation est tout à fait impossible dans un tel contexte. Et c'est donc avec le christianisme que les choses vont se distinguer davantage, puisque justement au départ, les chrétiens reconnaissent l'État, mais ne sont pas dans les religions de l'État.
Mais néanmoins, on peut dire qu'en effet, le pape n'est pas César. C'est une expression que j'ai trouvée dans cet ouvrage, Histoire de la laïcité à la française. Mais si le pape n'est pas César, quelquefois les Césars, en tout cas je pense par exemple à l'empereur Constantin, se sont tout de même beaucoup mêlés des affaires d'Église.
Ah, incontestablement. Donc, c'est l'idée qu'il y a une distinction entre les deux. Mais après, toute l'histoire donc de l'Antiquité, la fin de l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes, c'est justement pour de savoir quel est celui qui est au-dessus de l'autre, finalement. Hein. Qui doit inspirer l'autre? Est-ce que c'est le pouvoir politique qui a soumis à ses ordres, finalement, le pouvoir religieux parce que les sujets, eh bien, ils sont soumis au souverain? Ou est-ce qu'au contraire, dans un régime de chrétienté, est-ce que c'est pas le pouvoir religieux qui doit, en dernière analyse, donner ses instructions au pouvoir politique? politique. Et donc, au fond, toute l'histoire du Moyen-Âge est traversée par cette opposition.
Alors, cette première partie de votre ouvrage, qui traite donc de l'histoire de la laïcité à la française, s'intitule « De la monarchie catholique à la République laïque », ça couvre, j'allais dire, quasiment 19 siècles.
Enfin, oui, c'est un très
vraiment,
rapide
c'est
survol.
C'est un très rapide survol pour nous faire comprendre comment la laïcité se positionne par rapport au pouvoir temporel, spirituel. Enfin, c'est ça votre but ?
Le but, c'est de faire comprendre que la laïcité ne s'est pas faite en un jour et que, deuxièmement, elle est liée à l'histoire particulière de la France. La laïcité à la française, précisément.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire?
Parce
oui.
qu'en France, l'État se constitue de manière assez précoce. Il a une position particulière vis-à-vis de l'Empire et surtout vis-à-vis de l'Église romaine, de la papauté. Et donc, c'est dans ce jeu assez complexe que arrive à se dégager une originalité française. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'on ne peut pas comprendre la loi 1905 que l'on commémore si on commence l'histoire uniquement en 1901, alors ce qui est important, la loi sur les associations, mais je crois qu'il faut revenir vraiment beaucoup plus loin en arrière pour comprendre. Et en ce faisant, on se met dans un peu dans la tête de ces hommes de 1905. Parce que quand on regarde les débats parlementaires, qu'est-ce qu'on voit? Ils ne cessent de faire référence à l'histoire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes font la loi en 1905, pour l'avenir, mais sans cesse en se référant à l'histoire, en se situant dans le long terme. Donc je crois qu'il faut faire la même chose qu'eux pour comprendre ce qu'ils ont voulu faire.
Absolument. Il y a d'ailleurs une période qui est importante dans cette relation entre l'État et la religion, ou les religions, c'est déjà au moment de la réforme, quand un quart de la population française devient protestante et donc change de religion, passe à la réforme, et un premier édit de Nantes, enfin qui n'a d'ailleurs pas été le premier, parce que je crois qu'il y en avait eu plusieurs compromis ou édits avant, 1598, j'ai trouvé cette date dans votre livre aussi, qui effectivement établit un premier consensus des relations entre l'État et les religions. Est-ce que c'est un ancêtre de la loi de 1905 d'une certaine façon?
Oh non, certainement pas, parce que ce n'est qu'un édit de tolérance et non pas d'égalité. Mais c'est une étape importante. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on fait cette idée de Nantes, on peut être sujet du roi de France sans être catholique. Donc le pouvoir politique se situe au-dessus des confessions et devient le recours grâce auquel on va pouvoir vivre ensemble dans le royaume sans avoir la même confession religieuse. Et donc c'est une étape très importante, évidemment.
Alors Yves Brûlé, c'est vous qui avez décidé de l'organisation de cet ouvrage « Histoire de la laïcité à la française ». Il faut rappeler aussi que c'est vous qui avez organisé les textes fondateurs de 1905. Donc vous êtes vraiment le maître d'œuvre de tout ce qui se publie en ce moment dans ce domaine. Ce bel ouvrage, car c'est un bel album, tout à fait avec une couverture très reliée, qui a une très riche iconographie, et je voudrais justement qu'on en dise un tout petit mot avec Annick Fenet, puisqu'elle nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, qui s'est chargée de l'iconographie. Et c'est une iconographie qui ne se contente pas d'illustrer le texte, mais qui véritablement offre une documentation, c'est-à-dire que vos documents ont une valeur d'information et de pédagogie, comme le disait Yves Brûlé.
Tout à fait. Alors nous avons voulu travailler en plein accord. Et donc en fait, le livre s'est construit doublement avec Yves et moi-même. Donc nous avons travaillé en parallèle le texte et l'iconographie. Et donc chaque fois que je trouvais de nouveaux documents, j'en faisais part à Yves afin que éventuellement il puisse en parler, l'insérer à l'intérieur du texte lui-même.
Et donc, où avez-vous trouvé tous ces documents? Il y a évidemment, jusqu'en 1900-1903, il n'y a pas de photographie, mais énormément de tableaux, mais aussi de dessins, mais aussi de mosaïques. Enfin, il y a toutes sortes de reproductions. Et à partir de 1903, quelques photographies. Et où les avez-vous trouvées essentiellement?
Alors, j'ai cherché essentiellement du côté des musées de France, qui sont particulièrement bien nourris. Et également, donc, pour ce qui concerne la partie autour de 1900, dans les journaux d'époque, et j'ai puisé abondamment notamment dans l'illustration ou dans l'Assiette au beurre, qui est un journal de caricature de cette époque. Et donc, à cet égard, la bibliothèque de l'Institut de France et la bibliothèque du Sénat nous ont été particulièrement précieuses.
Alors, nous les remercions, nous en profitons, puisqu'elles sont toutes deux, il y a toutes deux à leur tête des conservatrices et des bibliothécaires en chef qui sont venues à cette antenne. Donc voilà, nous allons en profiter pour les saluer. Nous allons aborder la deuxième partie partie avec Yves Brulé, cette loi de 1905, on ne peut pas la détacher de 1901, de la loi de 1901. Alors est-ce que Yves Brulé, vous voudriez nous expliquer le lien entre les deux pour qu'on comprenne bien ?
Pour une raison toute simple, c'est que la loi de 1905 fait entrer le régime des cultes dans le droit des associations. Par conséquent, il n'est pas possible de faire de loi de 1905 s'il n'y a pas avant la loi de 1901 qui fixe le cadre des associations. Je crois que 1905, c'est ça essentiellement, c'est-à-dire qu'on met fin à ce qu'on pourrait appeler un service public des cultes pour créer à la place un régime de séparation dans lequel les religions s'organisent sous forme d'associations. Et donc c'est un type d'association particulier, mais qui est directement issu de la loi de 1901.
On a peut-être tendance à oublier que la loi de 1901, en effet, quand on dit que c'est la loi sur les associations, elle concerne aussi donc les congrégations religieuses.
Alors effectivement, donc pour cette deuxième raison, c'est lié à la laïcité, c'est que la loi de 1901 a un titre 3 qui concerne les congrégations religieuses, et c'était une manière d'encadrer là aussi la vie des congrégations qui n'étaient pas concernées par le régime concordataire. Le concordat de 1801 concerne le clergé séculier, mais pas le clergé régulier. Et donc il a fallu un siècle exactement pour que l'État fixe sous forme de loi le cadre juridique des congrégations, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et il l'a créé dans un régime particulier d'association.
Donc, vous expliquez fort bien dans cet ouvrage dont nous parlons, « Histoire de la laïcité à la française », publié par l'Académie des sciences morales et politiques, la loi de 1901, donc, comme préface, vous dites entre guillemets, à la séparation. Et puis, alors, tout ce qui s'est passé entre 1901 et 1905, c'est-à-dire beaucoup d'événements, et notamment, enfin, toutes ces querelles qui ont été un peu accentuées, si je puis dire, par notre petit père Combes.
Tout à fait. Effectivement, entre la loi 1901 et 1905, il y a le petit père Combes, donc président du Conseil, entre juin 1902 et janvier 1905. Alors pourquoi son rôle est important ? C'est parce que c'est lui qui a eu à appliquer la loi de 1901 sur les associations et particulièrement sur les congrégations. Il y avait deux façons de le faire. Une souple, qui consistait à autoriser les congrégations qui demanderaient donc d'être autorisées par la loi. Et une manière ferme et hostile aux congrégations, celle que a choisie Émile Combes, qui était de refuser les autorisations quand les congrégations le demandaient. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les congrégations, en tout cas un certain nombre d'entre elles, ont voulu se conformer à la loi de 1901, ont demandé l'autorisation par une loi d'exister et d'enseigner. Et la politique de Combes a été de refuser d'emblée et dans l'ensemble ces autorisations. Et ça a été donc un durcissement extrêmement difficile pour les catholiques en France, qui a conduit à cette opposition de plus en plus forte et qui a amené le gouvernement, après Combes, à faire voter une loi de séparation.
Voilà, donc on s'était effectivement dirigé vers une laïcité qui a quand même été assez conflictuelle par moments. Je voudrais demander à Annick Fenet si elle a retrouvé des documents sur, par exemple, des points conflictuels. Je pense à l'affaire des fiches qui consistait donc à ce que un certain nombre d'officiers soient dénoncés comme pratiquants ou pas pratiquants, enfin ce qui a tout de même soulevé une indignation à l'époque. Est-ce qu'on a retrouvé ces fameuses fiches ? Parce que je n'en ai jamais vu, moi, de ces fiches. J'aurais bien aimé les voir. Ah, bah, voyez, voilà.
Il y a encore des découvertes à faire.
Il y a encore des découvertes à faire. Peut-être qu'elles ont été déchirées, à votre avis, Yves Brulé ? On ne les a jamais vues. On en parle, mais ont-elles existé, alors, si on ne les a jamais vues ?
Écoutez, je n'ai pas eu la curiosité, et je le regrette maintenant, d'aller voir aux archives de la guerre à Vincennes ce qu'elles sont devenues. Mais en revanche, nous avons fait un travail, et surtout Annick, de recherche d'archives. Et certaines figurent dans l'iconographie du livre, et notamment les archives de police.
Alors les archives de la préfecture de police de Paris sont particulièrement riches, elles sont peu connues mais pourtant très utiles, et donc on y retrouve un certain nombre de dossiers qui concernent des surveillances faites par des officiers de police de l'époque en civil sur la population, sur les meetings, les réunions qui ont pu se faire concernant donc les réactions à cette politique laïque de Combes. On retrouve également des documents très intéressants dans les archives de l'archevêché de Paris où j'ai retrouvé notamment un certain nombre de lettres échangées entre l'archevêque de Paris et le pape concernant les décisions à prendre par rapport au pouvoir politique laïque donc du petit père Combes. On retrouve également des choses aux archives nationales, dans les archives de Combes lui-même, dont de nombreuses lettres de félicitations ou d'insultes contre sa politique. On en trouve également, mais elles ne figurent malheureusement pas dans le livre, dans les archives de contes déposées aux archives de La Rochelle.
Yves Brulé, dans cette histoire de la laïcité à la française, il y a donc, comme je l'ai signalé, une introduction par André Damien qui fixe au fond votre cahier des charges, puisqu'il vous a demandé de présenter de manière claire ce que vous faites, les événements, les hommes, les débats et les documents concernant toute cette époque de 1905. Avez-vous eu plaisir à faire tout cela? Était-ce une difficulté? Quelle a été la charge de travail que cela a représenté pour vous?
Bon, c'était bien sûr une charge de travail importante, mais je crois que le plus important, c'est de montrer comment cette mission de réaliser ce livre comble un vide. Il paraît énormément de choses sur la loi de 1905, oui, sur la laïcité en ce moment, mais ce genre de livre, en fait, il n'y en a pas d'autre. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est à la fois un livre illustré et qui a un récit aussi simple que possible. C'est un livre qui se veut aussi neutre que possible, c'est-à-dire qu'on donne les événements de base, hein, pour qu'ensuite chacun puisse se faire son opinion, mais sans prendre un parti ou sans développer une thèse en particulier. Et c'est un livre qui restitue, si vous voulez, cette histoire dans son contexte, en montrant les photos ou les portraits des hommes et des femmes qui ont fait cette histoire, pour qu'on comprenne bien que c'est pas la loi 1905 n'est pas quelque chose d'abstrait, hein, qui nous tombe du ciel, de manière paradoxale. Au contraire, bon, c'est l'œuvre d'hommes et on la comprend mieux quand on voit leur visage, si vous voulez, hein, ou aussi des documents d'archives donc le contexte et puis donc les hommes et aussi donc un récit aussi impartial que possible.
Mais peut-être est-ce difficile tout de même de montrer dans un livre la manière dont les Français, qu'ils aient été catholiques ou religieux ou anti-religieux ou anticléricaux, pouvaient ressentir les choses. Comment on fait passer le ressenti, justement, c'est-à-dire la souffrance, le tiraillement, le désarroi peut-être des pratiquants ou des non-pratiquants, ou la violence un peu quelquefois haineuse. Comment ces émotions-là, on peut les faire passer dans le texte, en restant objectif, comme vous avez tenté de le faire?
Bon, bien sûr, c'est une chose difficile, hein, de rendre cette ambiance qui est d'un monde finalement assez éloigné du nôtre un siècle plus tard. Mais je crois qu'on peut le faire en racontant certains épisodes caractéristiques pour montrer donc certaines situations. Je pense par exemple lors des inventaires en 1906. Là, je développe un moment sur la situation des soldats qui était chargé d'obéir, en obéissant aux ordres, d'occuper des églises ou de se trouver dans des situations un peu complexes pour certains qui avaient la foi.
Heurter à la foule, quelquefois même, oui.
Voilà.
Et qui défendaient l'église. Enfin.
Et certains étaient sur le point de démissionner de l'armée plutôt que de charger contre le clergé ou d'entrer de force dans une église parce que ça correspondait à quelque chose pour eux. Donc voilà, on peut multiplier les anecdotes de ce genre, mais je crois qu'on rend aussi cette époque, on essaie de la faire passer, la faire comprendre grâce à l'iconographie. Et là, le travail d'Annick Fenet a été décisif parce que justement, donc, ces portraits, ces images, ces choses originales, hein, et ces documents d'archives, dans certains cas aussi, je crois, montrent bien ce qu'était cette époque.
Merci, mais le travail doit évidemment en premier lieu à l'auteur.
Annick Fenet, est-ce que vous avez compté combien de documents? J'avoue que je ne l'ai pas pu les compter tellement il y avait, alors vous peut-être le savez-vous?
Non, parce qu'en plus... Plus d'une centaine sans doute, mais nous avons opéré une sélection parmi beaucoup d'autres documents que nous avons sur lesquels nous avons travaillé. Donc là, nous n'avons en fait qu'une petite partie, et une autre partie sera sans doute en accès sur le site internet consacré à 1905. Donc nous pouvons donner l'adresse.
Bien sûr, 1905-2005, c'est ça?
Voilà. .fr.
.fr.
Et donc une autre partie de ces documents sera donc visible sur le site internet en cours de préparation.
Et alors, est-ce qu'on peut être dans le secret des dieux? Y aura-t-il une exposition avec tous ces documents?
Pour l'instant, nous n'avons pas décidé de faire des expositions, mais nous savons que dans la France, en France, beaucoup d'expositions se montent ici ou là, de différents documents. Donc, nous avons privilégié un autre système, qui est d'abord ce livre, parce qu'il dure plus longtemps qu'une exposition. Il peut toucher plus de monde, et aussi le site internet, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est par ce moyen que l'on peut faire passer aussi la pédagogie historique que nous voulons construire autour de cette loi. Et je pense qu'avec le site internet, et puis ensuite sans doute un CD-ROM que l'on pourra réaliser avec toute la masse documentaire réunie, on pourra toucher beaucoup plus de monde qu'une exposition. Parce que ne serait-ce qu'un CD-ROM dans un établissement scolaire peut servir pendant très longtemps à faire des cours.
Bien sûr. Donc je vois que vous ne manquez pas d'ouvrages. Nous n'avons pas parlé d'une troisième partie, puisque j'avais annoncé qu'il y avait trois parties dans ce livre. Première partie, de la monarchie catholique à la République laïque. Deuxième partie, la séparation, naissance douloureuse de la laïcité française. Et troisième partie, l'État et les religions depuis 1905. Alors je crois qu'il faut dire que la loi de 1905 ne s'est pas appliquée facilement. En tout cas, qu'elle s'est appliquée de manière différente pour les catholiques que pour les protestants ou pour les juifs. Peut-être vous pouvez nous rappeler cela, Yves Brûlé.
En effet, pour les protestants calvinistes ou luthériens et pour les juifs, l'application a été immédiate, donc elle s'est faite dans les délais, c'est-à-dire dans l'année qui a suivi le vote de la loi, et les associations cultuelles se sont créées sans problème. En revanche, l'Église catholique a rejeté la loi, et donc il a fallu tout un dispositif juridique pour permettre l'exercice du culte qui puisse continuer à se faire. Et je crois que là, c'est important de dire qu'il y a eu une étape capitale qui est après la Première Guerre mondiale. Hein, la Grande Guerre, l'union sacrée, en rapprochant les Français entre eux, a permis ensuite un apaisement sur le front de la laïcité et l'Église catholique a fini par accepter d'appliquer la loi de 1905. C'est l'esprit donc des accords qui ont été conclus entre le gouvernement et le Saint-Siège au début des années 20.
Voilà, donc il a fallu attendre les années 20, en effet. Mais ça, c'était très mal passé entre le gouvernement français et le Saint-Siège. Quelques mots sur ce point ?
Oui, tout à fait. Donc la séparation, qui est la fin d'un traité, le Concordat de 1801, a été précédée par une rupture des relations diplomatiques en 1904. Et ce n'est qu'une fois cette rupture advenue, en juillet 1904, que le chef du gouvernement, donc Émile Combes, a pris la décision de faire une loi de séparation pour mettre fin au régime concordataire. Et donc, ce n'est là aussi qu'après la Première Guerre mondiale que des contacts ont pu se renouer avec le Saint-Siège. Et à partir du moment où il y avait une discussion diplomatique entre la République et le Saint-Siège, la loi 1905 a été acceptée. Parce que c'était ça, finalement, le point crucial qui faisait que les catholiques avaient refusé de l'appliquer.
Est-ce que vous pensez que les choses sont apaisées maintenant entre les religions, toutes les religions et l'État, et, ou est-ce qu'il y a encore des petits problèmes ?
Alors, bien sûr, il y a des problèmes. Je crois que sur les principes généraux de la loi de 1905, il y a un consensus qui existe. Avec l'Église catholique, par exemple, il n'y a plus du tout de difficultés. Bon, il peut y avoir des difficultés sur la compréhension de la laïcité dans son ensemble, par certaines tendances religieuses, je ne dis pas certaines religions, mais certaines tendances qui peuvent exister. Bien sûr, alors c'est l'objet de cette troisième partie qui veut donc amener l'histoire jusqu'à nos jours, en retraçant donc l'application de la loi 1905 au cours du dernier siècle, et puis en présentant une sorte de visage de la France sous l'angle des religions, avec une beaucoup plus grande diversité qu'il y a un siècle, bien sûr, hein, mais aussi moins de pratiques religieuse, et de montrer comment fonctionnent finalement les contacts entre pouvoir public et les différents cultes. Parce que je crois que c'est une idée qui est trop souvent négligée. On croit que la séparation, c'est au fond chacun dans son coin, et chacun fait ce qu'il veut. En fait, la séparation organise les rapports entre les pouvoirs publics, entre l'État et les religions. Et donc, c'était intéressant de montrer comment ces contacts existent aujourd'hui encore, ils sont quotidiens.
Oui, la séparation, en effet, il faut le redire, c'est une organisation de la vie en commun. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des relations les uns avec les autres,
tout
heureusement. Alors, Annick Fenet, qui est l'iconographe de cet album, vous avez tout de même réussi un exploit que j'ai découvert quand j'ai ouvert le livre. C'était de mettre, quelques jours avant la sortie du livre, une image des obsèques du pape Jean-Paul II, qui est décédé, donc, comme on le sait, le 8 avril, et votre livre est sorti, je crois, le 15-20 avril, le 27 avril, c'est-à-dire à peine 15 jours. Alors, comment vous avez réussi cet exploit iconographique, ça, il faut le dire.
Vous savez, avec les agences photographiques actuelles, c'est très facile. Vous vous connectez sur Internet, vous allez sur le site photographique donc des agences de presse et vous obtenez quasiment dans l'instant les photos d'actualité. Donc,
Mais tout de même, il fallait réagir. Il fallait se dire, ça n'est pas trop tard, tant pis. Enfin, donc, c'était... D'autant que le pape Jean-Paul II s'était exprimé, je crois, sur la laïcité. Est-ce que vous...
Tout à fait, oui. Il a fait connaître une lettre aux évêques de France quelques jours avant l'ouverture du centenaire officiel à l'Académie des sciences morales et politiques. Donc c'était le 11 février. L'ouverture a eu lieu le 14, vous voyez, donc le calendrier s'est bien présenté. Et c'est l'un des derniers actes finalement officiels, en tout cas sous cette forme du pape Jean-Paul II. Ça a été donc une lettre sur la laïcité adressée aux évêques de France.
Et Yves Brulé, avez-vous adressé ce bel ouvrage « Histoire de la laïcité à la française » publié par l'Académie des sciences morales et politiques à l'un de ses plus éminents membres, je veux dire l'ancien cardinal Ratzinger, aujourd'hui pape sous le nom de Benoît XVI. A-t-il en main cet ouvrage, à votre connaissance?
Je ne sais pas s'il l'a en main, ni si c'est son livre de chevet. Je le souhaite bien sûr beaucoup, mais en tout cas, tous les membres de l'Académie ont reçu l'ouvrage, oui, bien sûr.
Donc, notre pape doit avoir cet ouvrage aussi. Alors, je veux dire que dans cet ouvrage, il y a aussi une très précieuse chronologie des événements. Donc, ça commence à l'année 44 avant Jésus-Christ et ça se termine en 2005, évidemment. Donc, vous voyez, on a balayé tout de même toute l'histoire, j'allais dire, de la chrétienté, enfin du christianisme en tout cas. Et puis une bibliographie très détaillée que vous avez certainement établie en fonction aussi des intervenants au colloque, puisque vous avez organisé, je crois, 4 colloques cette année, n'est-ce pas, pour commémorer cette loi de 1905, avec énormément d'intervenants.
Oui, en effet. Donc, nous avons 4 colloques prévus. 2 ont déjà eu lieu et 2 vont avoir lieu à l'automne. Et au total, ce sont 150 spécialistes qui vont prendre la parole ou qui l'ont déjà fait pour les 2 premiers colloques. Alors, la bibliographie ne reprend pas nécessairement leurs ouvrages, mais on retrouve les mêmes noms parce que dans les colloques, nous avons bien sûr inviter les meilleurs spécialistes.
Oui, en effet. Mais enfin, il y a tout de même une bibliographie assez importante. C'est tout de même précieux. Encore un petit mot sur cet album. Est-ce que vous êtes aussi l'auteur, je le rappelle, d'un ouvrage tout à fait différent qui est au contraire un petit livre de poche où vous avez regroupé les textes fondateurs de la loi de 1905. On y retrouve les textes de débat, notamment à l'Assemblée nationale. Ces textes était présenté par Dominique de Villepin. Et maintenant, vous faites au contraire un très bel album qui est lui présenté par Jean-Pierre Raffarin. C'est quand même c'est très prestigieux dans votre propre carrière, Yves Brulé, d'écrivain, d'avoir 2 ministres qui signent vos textes. C'est 2 livres très différents, un peu sur le même sujet. Vous avez d'autres projets sur le même sujet? Vous êtes content de les avoir faits?
Oui, bien sûr. Je précise que le livre « Histoire de la laïcité à la française », c'est simplement dans le cadre de la mission qui a été confiée à l'Académie des sciences morales et politiques. Mon rôle est tout à fait secondaire, c'est un travail d'exécutant. Alors que le livre 1905, « La séparation, les textes fondateurs » paru chez Perrin, est une œuvre effectivement assez différente qui n'entrait pas dans le cadre de la commémoration officielle. Il y a tout de même un point commun entre les deux, c'est que dans l'album, donc le beau livre « Histoire de la laïcité à la française », j'ai autant que possible cité des textes d'époque et notamment quelques extraits de débats de parlementaires parce que au fond il n'y a rien de tel finalement pour sentir une période aussi cruciale de l'histoire de France que de citer les textes des personnes qui l'ont fait, qui l'ont animé.
Et on y perçoit la virulence dans les propos, donc les positionnements des uns et des autres. Et aussi, je pense à Briand, par exemple, au contraire, son désir de tempérer tout cela pour aboutir à quelque chose qui va être la loi de 1905 et qui devrait apporter l'apaisement.
Tout à fait. Donc la virulence de certains propos, l'apaisement cherché par d'autres, et puis la hauteur de vue, quand même, l'hauteur de vue qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs et particulièrement chez les députés à l'époque.
Yves Brulé, merci. Et Annick Fenet, merci. Vous
merci
qui avez assuré l'iconographie de ce très bel ouvrage. Histoire de la laïcité à la française, avec une préface de Monsieur le Premier ministre et deux textes de présentation de Monsieur Jean Tuilard et Monsieur André Damien. Ce bel ouvrage est publié par l'Académie des sciences morales et politiques et diffusé par la Sofedis. Merci, à bientôt.
Canal Académie.
Au fil des pages, c'était Hélène Renard avec Anne Fernet et Yves Brûlé. Les colloques organisés par l'Académie des sciences morales et politiques dans le courant de cette année 2005, colloques consacrés à la loi de 1905, ont fait l'objet de plusieurs livres, dont celui dont nous venons de parler, La laïcité à la française. Vous pouvez obtenir l'intégralité des coordonnées de ces ouvrages sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Je vous renvoie également volontiers au site spécialement créé pour cette occasion, www.1905-2005.fr. Une très courte pause sur Canal Académie et la suite de notre journée spéciale Loi 1905. Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.